Les enfants, je ne sais pas s'ils veulent rester. Ils sont les bienvenus. Comme vous voulez. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Samuel a vomissé. Et puis dans la journée, donc, les parents se sont vraiment inquiétés, ils l'ont emmené à l'hôpital, ils ont passé une radio aux urgences. Et l'interne qui les a reçus n'a pas trouvé nécessaire de garder l'enfant. Donc il est rentré. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'état de santé de Samuel s'est aggravé. Au point que le matin, ils ont appelé les pompiers. Serge, voyant que Samuel était vraiment dans un état de santé qui s'aggravait de plus en plus, a pris l'enfant dans ses bras, a couru vers la route, parce que les pompiers tardaient, et l'enfant est décédé dans ses bras. Massage cardiaque. Constatation de la gendarmerie, puisque l'enfant est décédé, pas dans l'hôpital bien sûr. Donc ils ont rejoint après Samuel à l'hôpital en début d'après-midi. Gabriel a mis un post sur Facebook et elle écrit ceci. Vendredi 23 août, point de suspension, 11h30. Petit prince est parti. Il a échappé à la méchanceté du monde. Un an de bonheur en souvenir de toi. Merci de nous avoir aimés comme tu l'as fait, c'était merveilleux. On ne t'oubliera pas, tes parents qui t'aiment plus que tout au monde. J'ai vu Gabriel hier matin. Effondré, oui, mais dans l'espérance. Dans l'espérance. Comme je l'ai souligné dans ma prière tout à l'heure, quelque chose de tragique. Il n'y a pas pire que de perdre un enfant. D'un point de vue humain, il n'y a pas pire. Mais ça, c'est notre regard humain. Et il n'est pas question de se poser des questions, finalement, à qui la faute. On ne sait pas de quoi il est décédé, il aura une autopsie demain matin. Il est dans les bras de Jésus aujourd'hui. Il y a une semaine, je présidais la cérémonie de l'enterrement du papa d'une sœur. On ne sait pas s'il était au Seigneur. Moins tragique. Moins tragique humainement. Quand on part à 70 ans, à 80 ans, même à 40 ans, c'est moins tragique d'un point de vue humain. Mais si on part sans le Seigneur, c'est encore plus tragique. Et tout ceci me ramène à l'essentiel. Je suis en colère. Effondré dans un premier temps, mais en colère. En colère après le péché qui s'attache si facilement à nous. En colère après le fait que je ne regarde pas ce qui est essentiel et je vais toujours à ce qui est secondaire et que tout le monde n'en a rien à fiche et je fais ma petite vie. Ouvrons nos Bibles. Philippiens chapitre 1. J'aime bien les introductions des lettres. J'ai déjà abordé ici plusieurs fois l'introduction de quelques lettres. Ce matin dans nos prières, on a parlé de paix. On a chanté la paix, shalom. On a parlé de joie. Lisons Philippiens. Vraiment, je crois que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager quelque chose ce matin et je crois que vraiment ça vient de lui. Et on va lire Philippiens. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous, Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Quelle introduction! Elle ne m'est jamais apparue comme ça. Jamais. C'est vrai qu'il commence en énumérant la structure de l'église locale, hein, tous les saints, responsables, diacres. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Je vais plutôt, en rapport avec le titre que je vais vous donner, j'ai intitulé ce partage « Notre relation à la grâce ». Notre relation à la grâce. Est-ce que ce matin, nous nous sommes salués dans le même état d'esprit que Paul salue les Philippiens, c'est-à-dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ? Oui, on est dans le deuil. Oui, on est dans la tristesse. Oui, le deuil nous unit aussi. Comme le mariage il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Ça unit une église. Oui, ça unit. Mais est-ce que nous nous sommes salués en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu? Dans sa salutation, Paul utilise deux mots. Deux. Grâce et paix. L'ordre dans lequel Paul utilise ces mots, il est très significatif. En effet, pour pouvoir bénéficier d'une paix véritable, il nous faut répondre de façon personnelle à la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée qu'il manifeste particulièrement à la croix, pour expérimenter la paix, mon frère, ma sœur, il faut que tu expérimentes la grâce. Si tu n'expérimentes pas la paix, tu n'expérimenteras pas la grâce. Ou si tu n'expérimenteras pas la grâce, tu ne pourras pas expérimenter la paix plutôt. Mes amis, que ce soit pour notre salut, pour notre vie chrétienne, il est impossible d'expérimenter la paix si nous ne sommes pas passés par la grâce. Vous comprenez ? Relation à la grâce. Je vais commencer et finir par des questions. Les deux dimanches précédents, la question était « Que ferait Jésus à ma place ?» Ça, c'était la question qui a été posée par Luc et par Manu. Manu nous a rappelé que la joie serait notre force. Amen. La joie de Dieu, parce que la joie humaine ce matin, on l'a pas. Je l'ai pas. Je suis en colère. Je l'ai pas. Alors, tout comme la paix, la joie ne peut véritablement se vivre et s'exprimer dans nos vies sans la grâce. La grâce est en premier. La paix et la joie viennent ensuite. Sans la grâce, la paix et la joie, nous ne la vivrons pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui te reste ce matin ? La joie ? La joie de te savoir sauvé, oui. La joie humaine, elle n'y est pas. La paix ? La paix de Dieu, parce que nous sommes réconciliés avec lui par le sang de Christ, oui. La paix humaine ? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, au vu des événements tragiques qui secouent notre communauté, nous en avons besoin plus que jamais. Nous devons revenir à ce qui est essentiel, à la grâce. Je vais aller plus loin. Je pourrais te poser la question que tu as entendue peut-être des milliers de fois. Quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus, avec ton Seigneur ? La même question posée un peu différemment dirait ceci : quelle relation entretiens-tu avec la grâce ? Te souviens-tu de ce qu'est la grâce ? Pas la définition du dictionnaire ou du vocabulaire de théologie biblique. Dernier commentaire. Non, non, non. Quelle est ta définition de la grâce dans ta vie? Quelle est la définition de la grâce dans ma vie? Comment je la définis dans ma vie? Te souviens-tu du jour où tu as été touché par la grâce? Est-ce que ce matin tu es là pour célébrer cette grâce? Est-ce que tu as franchi la porte de ce local avec le cœur rempli de cette grâce abondante que le Seigneur déverse toujours et encore dans ta vie? Quelle est la flamme qui anime mon regard? Mon regard sur toi. Quelle est la flamme qui anime mon regard quand je te regarde? Personnellement, après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai réalisé au bout d'un certain temps, et pas tout de suite, que la vie chrétienne n'était pas l'apprentissage d'une nouvelle philosophie ou connaître les textes bibliques par cœur. Tu sais au travers de quoi j'ai réalisé ce qu'était vraiment la grâce? Et que ce n'était pas simplement l'apprentissage d'une nouvelle philosophie de vie? J'ai réalisé ça lorsque je me suis regardé plusieurs fois dans la glace et que j'ai vu la somme incalculable de mes défauts. Me regarder une ou deux fois, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour que je puisse regarder mes frères et sœurs au point de me dire « Ils sont super quand même !» Tellement mieux que moi. Dans bien des domaines, je comprends, Seigneur, pourquoi eux, tu les aimes. Par contre, je ne comprends pas pourquoi moi, tu m'aimes. Voilà ce que la grâce devrait produire dans nos vies. Comment ça se fait que tu m'aimes à moi? Eux, je comprends que tu les aimes. Mais comme on manque de grâce, on inverse les choses. On dit, oh là là, comment tu peux aimer des gens pareils? Moi, ça se comprend que tu m'aimes. Mais eux, revenir à ce qui est essentiel, si ce n'est la grâce. Oui, j'ai réalisé que ma vie avec lui, finalement, n'était pas l'apprentissage d'un nouveau style, mais d'une vision constamment renouvelée de la grâce manifestée pour moi en Jésus-Christ. Une grâce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je repose les mêmes questions. Aujourd'hui, peut-être que le Seigneur a décidé de me faire avancer dans ma relation avec lui, dans mes relations avec vous. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as été touché par la grâce? Est-ce que ce matin, tu es là pour célébrer cette grâce? Est-ce que j'ai franchi le local de cette porte avec un cœur rempli de grâce abondante que le Seigneur déverse et déverse et déverse toujours et encore sur ma vie? J'ai remarqué, mes amis, que si je ne baigne pas dans cette grâce, je pète les plombs. Ce qui nous arrive là, ça m'arriverait à moi. J'ai vu Gabriel avec l'espérance. Hier soir, elle m'a même envoyé un mail avec une photo que j'avais prise pour rigoler avec une perruque blonde. Elle m'a envoyé ça hier soir en me mettant mort de rire. Tu veux pas péter les plombs dans ta vie? Reste attaché à la grâce de Dieu. Et je crois que c'est la plus grosse leçon que j'ai à apprendre. Parce que si je ne baigne pas dans cette grâce, je ne pourrai pas encaisser les épreuves. Terrible! J'ai remarqué que si je ne baigne pas dans cette grâce, je me dessèche. J'ai remarqué que si je ne baigne pas dans cette grâce, ma vieille nature revient avec tous ces raisonnements humains vides, secs, incisifs, vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de mes frères et sœurs. Secs! J'ai remarqué que si je ne baigne pas dans cette grâce, je recommence à supporter mes défauts, alors que les défauts des autres me deviennent insupportables. C'est plus facile de supporter ses défauts que ceux des autres. Tellement plus facile. Et j'ai remarqué que si je ne baigne pas dans cette grâce, je recommence à produire des fruits de ressentiment, d'amertume, de rancune, de mécontentement. Si je ne baigne pas dans cette grâce, mon frère, ma sœur, mon esprit critique revient à la charge. Et le pire, c'est que je suis capable d'appeler ça du discernement. Je discerne chez les autres, mais chez moi, non. Je suis en colère, mes amis. En colère après le péché qui s'attache si facilement à moi. Oui, le chemin est large. Et le chemin large, ce n'est pas les billets dans les poches. Ce n'est pas le compte en banque. C'est le manque de grâce. Et savez-vous que c'est la grâce qui sauve de la perdition et qui, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, m'empêche de me perdre dans la mesure où je la chéris. Je chéris cette grâce. C'est la grâce qui va me permettre de ne pas sombrer lorsque la tempête arrive. C'est vrai. Mais c'est aussi la grâce qui va me permettre d'expérimenter la paix et la joie au milieu de n'importe quelle circonstance de la vie. Savez-vous comment je chéris la grâce ? Écoutez bien. On chérit la grâce lorsqu'on l'accorde à ceux qui nous entourent et qui n'en ont pas moins besoin que nous. Parce que la grâce, c'est le pardon accordé à des coupables. Et nous sommes coupables. Je suis coupable. Et nous sommes au bénéfice de cette grâce à cause de Jésus-Christ et de son sacrifice. Et non pas parce qu'on est des gens super qui ont tout compris, alors que les autres, ce sont des imbéciles. D'ailleurs, sont-ils chrétiens ? Sont-ils de vrais chrétiens ? C'est à la mode en ce moment, les mouvements sans compromis. Pétard. J'espère qu'ils n'ont pas de compromis, hein, ceux qui disent sans compromis. Mais je ne suis pas si sûr que ça. Parce que nous, à un moment ou à un autre, nous faisons tous un compromis, ne serait-ce que dans nos pensées. Et je suis en colère, mes amis, en colère après le péché qui s'attache si facilement à moi. Jésus nous rappelle dans Matthieu 18, au travers de la parabole du serviteur impitoyable, que si je ne baigne pas dans cette grâce, c'est exactement ce que je deviens. Impitoyable ! Pas de pitié ! Il m'est arrivé de tenir les comptes à la virgule près. Mais pas pour moi-même, pour mes frères et sœurs. Et au travers de cette parabole, Jésus nous enseigne que dans le domaine des offenses et du pardon, l'utilisation de la calculatrice, comme je l'ai déjà dit ici d'ailleurs, n'est pas une très bonne chose. Parce que si Dieu devait utiliser une calculatrice avec nous, avec moi, mais on exploserait les compteurs. Quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus, avec ton Seigneur ? Mesures-tu toujours avec émerveillement ce qu'est la grâce qu'il t'a offerte ? Est-ce que tu te souviens de ce que ça veut dire « par grâce » ? Il y en a qui vont dire « Ouais, mais bon, c'est trop facile, hein, la grâce. Hein. On a la grâce. » Non, non, non. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Te souviens-tu du jour où tu as été touché par la grâce ? Est-ce que ce matin, tu es là pour célébrer cette grâce ? Est-ce que tu as franchi la porte de ce local avec le cœur rempli de cette grâce abondante que le Seigneur déverse et déverse et déverse ? Et déverse chaque jour dans ta vie. Ah, tu vas être contrarié. Si tu ne baignes pas dans cette grâce, mon frère, ma sœur, tu vas être contrarié. Contrarié par tout ce qui ne va pas chez les autres. Tu vas te dessécher. Le pire, c'est que tu vas en rendre les autres responsables. Ta vie de prière va s'arrêter. Même si tu vas continuer à prier, hein. C'est marrant, c'est paradoxal. Notre vie de prière peut s'arrêter tout en priant ? Oui, parce qu'on devient des moulins. Et on risque de se croire plus spirituel que les autres, non pas parce que nous prions, parce que c'est ce que nous disons, hein, parce que je prie, mais parce que nous moulinons. Et tu vas ruminer, te renfermer sur toi-même. Tu vas commencer à juger à la place de Dieu, éprouver de la colère envers tes frères et sœurs. Envers ceux qui ne vont pas choisir les couleurs que toi tu aurais choisies. On a choisi du fuchsia. Tu vas douter de la présence du Seigneur dans la vie de tes frères et sœurs. Tu vas douter que le Seigneur puisse, au même titre que toi, leur parler, les conduire et les transformer. J'ai tendance à douter, que, parfois, quand je regarde mes frères et sœurs, que Dieu puisse les transformer et les conduire comme il le fait avec moi. Il faut que je sois complètement marteau pour arriver à penser des choses pareilles. Hein. ou alors que je manque de grâce. Quelle différence avec la parole de l'apôtre Paul au verset 6 qui nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Quelle différence ! Mon frère, ma sœur, je te regarde et je sais que le Seigneur va finir ce qu'il a commencé en toi. Peut-être qu'il n'en est pas au même point que moi, mais il va le finir. Voilà ce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Philippe, qui n'étaient pas parfaits. Qui n'étaient pas parfaits. Et notre tendance naturelle, c'est de limiter la puissance de la grâce de Dieu. Nous limitons la puissance de la grâce de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Nous les méprisons à ce point. Est-ce que nous réalisons qu'en les méprisant, nous méprisons Jésus ? Et voyez comment Paul continue au verset 7. C'est la clé, écoutez bien. « Il est juste que je pense cela de vous, tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi. » Parce que je vous porte dans mon cœur. Parce que vous tous, vous participez à la même grâce que moi. Dans le journal La Réforme du 17 janvier 2013, on pouvait lire un article au sujet d'un jeune néo-nazi allemand, converti à Jésus-Christ et qui termine ses études pour devenir pasteur. Et de nombreux chrétiens se sont réjouis de voir Johannes Kneifel changer de vie. Ils se sont réjouis. Mais confie-t-il, et je le cite, « Certaines personnes ont déjà dit qu'elles quitteraient leur paroisse si j'y devenais pasteur. Beaucoup pensent que les gens comme moi ne méritent pas de seconde chance. » Je répète. Confie-t-il, je cite, « Certaines personnes ont déjà dit qu'elles quitteraient leur paroisse si j'y devenais pasteur. Beaucoup pensent que les gens comme moi ne méritent pas de seconde chance. » C'est facile de coller des étiquettes sur quelqu'un et 20 ans après, je lui laisser. Hein. Surtout, ne lui enlevons pas. Est-ce que tu crois que tu peux changer ? Est-ce que tu crois que je peux changer ? Croyons-nous véritablement à la puissance de la grâce de Dieu ? Est-ce que tu crois que la grâce est autant à l'œuvre dans ta vie que dans celle de ton voisin de droite, que dans celle de ton voisin de gauche, que de ton frère assis derrière toi ou devant toi ? Est-ce que tu crois que la grâce de Dieu peut agir dans sa vie autant que dans la tienne ? Oui ou non ? Si tu ne le crois pas, écoute, il vaut mieux arrêter l'église. Hein ? Il vaut mieux arrêter, ça ne sert à rien. On ne joue pas à la religion, là. Tu es transformé dans ta vie. Est-ce que tu crois que ton frère, ta sœur, ton église est entre les mains de Dieu et qu'il use d'autant de grâce que pour toi que pour les autres ? Je crois que mon Église est entre les mains de Dieu, même si nous passons par des épreuves telles que nous passons actuellement. Je crois. Même si nous ne faisons pas les choses de manière linéaire et que tout n'est pas nickel chrome. Parce que quand je me regarde dans la glace, je ne vois pas écrit nickel chrome là. J'avoue, il m'est arrivé d'en douter. J'ai douté. Douter de toi, douter de nous, douter de moi. Et qu'est-ce qu'il arrive ? Résultat. Plus rien ne me satisfait. Insatisfaction permanente. Plus rien ne me réjouit. Amertume. J'ai le sourire aux lèvres, mais j'ai le cœur plein d'amertume. Plus rien ne m'encourage. Découragement. Et je me suis retrouvé emprisonné dans un pessimisme, mais chronique. Chronique. J'étais pessimiste. J'arrivais plus à voir les couleurs. J'arrivais plus à voir le ciel bleu. Il était toujours gris. Mais pour quelqu'un qui habite sur la Côte d'Azur. Et mes amis, lorsqu'on en arrive là, il nous faut à tout prix réaliser la gravité de notre état. Le risque de l'autisme, parce que c'est l'autisme spirituel, n'est pas loin. Renfermement sur soi. C'est désastreux. Et vu de l'extérieur, tu peux avoir l'air d'un chrétien normal, mais à l'intérieur, c'est le naufrage. Et lorsque quelqu'un est dans cet état-là, un des signes, c'est le manque de grâce. Absence de grâce. Utilisation de la loi de Dieu. La Bible que tient cette personne dans sa main n'est plus un baume, un souffle de vie, une nourriture, mais le scanner de la loi de Dieu par laquelle elle passe les autres. Au scanner, waouh, pour voir ce qui ne va pas. Et je le dis, des gens que j'aime profondément, de tout mon cœur, ont quitté notre église avec ce scanner à la main. Et je prie Dieu qu'ils cassent ce scanner ou qu'ils finissent par l'utiliser pour eux-mêmes. Plus d'amour. Bien sûr, le péché, c'est quelque chose qui... un cancer qui ronge l'homme. Le scanner de Dieu permet de le détecter, peut-être. C'est super, car ce scanner détecte le péché même derrière les façades. Mais c'est surtout super quand on se scanne soi-même. Et pour se scanner les autres, il faut avoir la grâce. Parce que si tu scannes les autres sans la grâce, mon ami, c'est que tu n'as rien compris. Ni à la croix, ni à ce que Jésus a fait pour toi et au prix qu'il a payé pour toi. Mais sans la grâce pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas en avoir pour les autres. Peut-être nous avons un peu de clémence en fonction des circonstances, des situations, des personnes. Quelle différence avec Jésus, n'est-ce pas ? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous dit « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. » Bien sûr qu'avec le scanner, on voit tout. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Mes amis, Jésus avait recours à cette grâce qui surabonde jusqu'à détruire les moindres métastases du cancer du péché. Et devant les pharisiens qui, à la moindre occasion, criaient au scandale, Jésus, quant à lui, déployait cette abondante grâce. Ce qu'il a fait pour moi, c'est ce qu'il a fait pour toi. Il a déployé toute sa grâce. Tu te souviens quand Jésus a été invité chez Simon le pharisien ? Ah, quelle histoire ! Lorsque cette femme de mauvaise réputation est venue à l'improviste s'agenouiller aux pieds de Jésus, pleurer, mouiller ses pieds avec ses larmes, ses larmes de pécheresse, les embrasser avec sa bouche de pécheresse, les essuyer avec ses cheveux de pécheresse. Et Simon qui était là, qui se disait, mais c'est pas possible, il sait pas que c'est une femme pécheresse. Il n'a pas de discernement, ce rabbi-là. Bien sûr qu'il en avait. Bien sûr qu'il savait qui était cette femme. Bien sûr. Mais il avait la grâce. Et il l'a regardé avec les yeux de la grâce. Si cet homme était prophète, il saurait. Il saurait. Oh, j'entends beaucoup ça. Je me déplace dans les églises et j'entends beaucoup ça à des membres des fois. Mais lui, il saurait s'il était. Hein? Et lui, il saurait, il devrait savoir. Non ? On ne sait que dalle. Rien, on sait. Parce que quand il arrive ce qu'il arrive aujourd'hui, on ne sait plus rien. On revient à l'essentiel. On revient au pied de Jésus. Et stop, ça suffit. Les raisonnements et les discussions et les 1 plus 1, ça fait 2. Il n'y a pas de raisonnement là. Il n'y a pas de multiplication, d'addition possible. Rien n'est compréhensible dans la souffrance. Rien. Pourquoi tu n'as pas de réponse ? Job n'en a pas eu. Il ne lui a pas dit, Dieu, pourquoi il lui est arrivé tout ce qui lui est arrivé. Non. Mais simplement, le livre de Job, ce n'est même pas la souffrance, c'est la foi. C'est ça le thème du livre de Job. Peut-on garder la foi au milieu de la souffrance ? Simon ne savait pas que le discernement de Jésus allait beaucoup plus loin que son scanner. Beaucoup plus loin que les apparences. Croyons-nous que la grâce de Dieu soit suffisante pour couvrir les péchés d'une femme comme celle-là ? Croyons-nous que la grâce de Dieu soit suffisante pour couvrir les péchés d'Aurélien, Charles, Claude, Jean-François, Noël, David et Francky, des détenus de la prison ? Pensons-nous, croyons-nous que la grâce de Dieu soit suffisante pour couvrir les péchés, des manquements, des erreurs de Daniel, d'Emmanuel, de Paul, de Martine, de Pierrette, d'Elmo, de Brigitte? Est-ce que nous pensons que la grâce de Dieu est capable de couvrir ces péchés-là? Nos péchés?
Oui, heureusement. Parce qu'autrement, je change d'église. Hein. Ou je change de département, carrément, parce que là, ça serait dur. Hein.
Est-ce que nous croyons que la grâce de Dieu soit suffisante pour les faiblesses de notre église? Ou mieux vaut écouter les chuchotements négatifs que le diable vient souffler à notre cœur? Parce qu'il y en a plein qui viennent dans mon cœur. Plein! Plein qui viennent là et qui viennent me dire « Mais t'as vu ça? Mais t'as vu ça?
Mais t'as vu ça?
Mais tu te rends compte de ça? C'est grave, hein ?» Que Jésus augmente notre foi en sa grâce. Et que sa grâce, que par sa grâce, il nous fasse voir la poutre dans nos yeux avant de voir la paille dans l'œil des autres. Qu'il transforme notre esprit de jugement en prière d'amour. Et l'apôtre Pierre nous le dit d'une autre manière, hein, cet apôtre Pierre, ah là là. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance. D'abord dans la grâce, hein, après dans la connaissance. Hein, ok? D'accord? Pas le contraire. Hein. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Le caractère fougueux de Pierre était une qualité. Mais il a dû rengainer son épée. Il a dû rengainer son épée. Il a dû laisser tomber la violence pour s'attacher à la grâce. Il a compris que la grâce de Dieu est si merveilleuse que l'éternité ne sera pas trop longue pour en découvrir toutes les facettes. On peut en découvrir quelques facettes aujourd'hui au travers de l'Église. La grâce. Et sans la grâce, mes amis, la plus grande de nos qualités se retrouve automatiquement entre les mains du diable. Sans la grâce, nos soi-disant dons spirituels deviennent des instruments au service de l'ennemi. Et l'objectif du Seigneur pour nos vies, c'est que nous grandissions dans sa grâce. Ce n'est pas seulement une expérience ponctuelle que nous avons fait le jour de notre conversion, c'est le projet croissant de chacune de nos vies. Il veut que nous grandissions dans la grâce. Toutes nos qualités les plus belles, les plus extraordinaires, tous les talents que nous avons reçus du Seigneur peuvent devenir mais des horribilités, des horreurs sans la grâce. Imaginez une belle bouteille de parfum qui sent l'œuf pourri. Hein ? Vous imaginez ça? Nous qui habitons à Grasse? Vous imaginez un top modèle avec un vocabulaire de poissonnière du Vieux-Port à Marseille? Vous imaginez ça? Une belle fille? Un canon, comme on dit? Une créature de mode avec un vocabulaire qu'il vaut mieux qu'elle se taise? Ne dis rien, sois belle et tais-toi. Imaginez un chrétien maintenant sauvé par grâce, qui ne fait que blâmer, désapprouver, dénigrer, condamner les autres. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous savez, le premier membre du corps, de notre corps, qui est atteint par l'absence de grâce, ce n'est ni les mains, ni les pieds, ni la tête, ni le nez, ni les oreilles. Vous savez ce que c'est ? Dans l'épître de Jacques au chapitre 3, nous lisons « La langue, aucun homme ne peut la dompter si la grâce est absente. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, pleine d'un venin mortel, si non inspiré par la grâce, oui. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il parle à des chrétiens, hein. Ce n'est pas Jacques qui est en train ici de nous parler, même si c'est l'épître de Jacques. C'est Jésus. Jésus, il est en train de nous dire, je ne veux pas voir ça dans ta vie. Je ne veux pas voir ça dans ta vie. Arrête. Stop. »
Cette bouche en dessous de mon nez a été faite par Dieu pour le louer et pour être un véhicule de sa grâce. Dans mon foyer, dans mon travail, dans mon église, et je ne dis pas dans ton église, mais dans mon église, parce que j'aime le terme « mon » comme ma famille, comme mes amis, comme ceux que j'aime. La source fait-elle jaillir de la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Vous savez, on refile un rhume et une grippe à quelqu'un par les postillons. Moi, je prends du Bion 3 tout l'hiver. C'est contagieux, l'absence de grâce. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci. Écoutez bien, Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez, si tu peux le mettre, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillons, moi j'ai envie de veiller sur toi, que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Veille sur moi, que je ne me prive pas de la grâce de Dieu. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. C'est de ça que nous avons besoin les uns avec les autres. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Aigreur, amertume, piège, déformation du caractère, enlaidissement de l'âme. L'amertume nous entraîne et entraîne les autres dans un cercle vicieux. Troubles et contaminations. Veillez à ce que personne, mes amis, ne se prive de la grâce de Dieu. Vous savez que sans la grâce, nous serions perdus pour l'éternité. Sans la grâce, Samuel aujourd'hui serait pas entre les bras du Seigneur Jésus. Vous savez, sans la grâce, on est perdu. Tu es perdu sans la grâce. Je suis perdu sans la grâce. Nous sommes perdus. Perdus d'office. Mais un jour, nous avons été totalement pardonnés. Réalisons-nous ce qu'est la grâce. Réalisons-nous que nous en bénéficions à chaque minute de notre existence. Même lorsque nous dormons, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Quelle relation entretenons-nous avec cette grâce? De quelle façon nous la communiquons autour de nous? Sommes-nous des véhicules, des chemins de la grâce? Des personnes de grâce. La Bible nous dit que Dieu a chargé des anges pour qu'ils soient à notre service. Et j'ai la conviction qu'il utilise aussi ses enfants pour administrer la grâce. Et Paul est en train de dire, vous savez, verset 8, je vous le relis, on arrive à la fin, je suis content de voir Gabriel, ma sœur, ma belle-sœur presque. Et mon Serge. J'ai envie de vous dire, Serge et Gabriel, je suis fier de vous, je vous aime. Vous êtes ma famille. Autant l'un que l'autre. Et je finis par ce verset 8. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Lorsque je vais devant le trône de Dieu, mes amis, pour m'inonder de la grâce, c'est pour vous. Voilà ce qu'est en train de dire Paul. Je veux être un berger miséricordieux pour vous. Pas un berger qui juge. Je veux être rempli de cette grâce qui se déverse dans ma vie pour qu'elle se déverse dans la vôtre. Ce matin, en me levant, vous savez quoi? Et je crois que ce matin, on est conduit. Je me suis dit, tu ne verrais pas que ce matin, je voyais arriver Serge et Gabriel. On ne jure pas, mais je vous jure devant Dieu que je l'ai dit. Samuel, je l'ai dit ou pas? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, une grâce qui vient bouleverser nos vies. Sans la grâce, je n'aurais pas la conviction aujourd'hui que Samuel il est auprès de Jésus. Par la grâce de Dieu, un cœur dur peut se changer à un cœur de chair. Seule la puissance de la grâce de Dieu peut nous faire ressembler de plus à Christ. Et ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que cette puissance se montre dans sa pleine mesure lorsque nous sommes faibles, fragiles et vulnérables. Parce que l'apôtre Paul, il exprime dans 2 Corinthiens, il nous dit « Ma grâce te suffit, lui dit Jésus, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À quoi se raccrocher ? À nos raisonnements ? 1 plus 1 égale 2. Non, avec Dieu, on ne peut pas raisonner comme ça. Dieu, il est Dieu. Nous devons rester à notre place. Que ce soit dans nos rapports avec lui, que ce soit aussi dans nos rapports les uns avec les autres. Autrement, à quoi bon ? Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que nous ne méritons rien. Je ne mérite rien. Et tu me donnes tout, au point d'avoir donné la vie de ton Fils pour nous. Mais Seigneur, je veux vraiment te prier pour ceux que j'aime. En te demandant de les bénir. Console-les par ton esprit, parce que ton esprit, c'est le consolateur, l'esprit de vérité. Et Seigneur, dans ce champ des souffrances, permets-nous de regarder à tes mains et à tes pieds, à ta couronne. Merci de nous rappeler ce matin que tu es présent et que tu nous fais grâce.